Salut, je suis Gary Beneza et je vous emmène dans les coulisses du Web3. Finances décentralisées, NFT, métaverse et autres innovations dans la blockchain, je pars à la rencontre des principaux acteurs francophones du Web3 pour comprendre comment ils ont lancé leur projet et comment ils sont en train de construire leur succès au quotidien. Découvrez tout de suite un nouvel invité passionnant qui réinvente le monde d'aujourd'hui grâce au Web3. C'est parti! Salut Baptiste, je suis ravi que tu sois l'un des premiers invités de mon podcast, notamment parce qu'on se connaît depuis pas mal d'années, on a fait une bonne partie de nos études supérieures ensemble. Tu es aujourd'hui cofondateur de Lilblock Partners. Est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant Lilblock Partners?
Yes, salut Gary, très content d'être là. Donc j'ai 31 ans, je vis à Londres et avant Lilblock, je travaillais chez Goldman Sachs. Avant ça, j'avais bossé aussi chez Rothschild, donc toujours dans le secteur financier et toujours dans l'investissement. Avant de se dire qu'il fallait faire le grand saut dans le Web3.
Ça marche. Est-ce que tu peux expliquer ce que fait Lilblock Partners?
Ouais, donc Lilblock Partners, on est un fonds de VC, donc Venture Capital ou Capital Risk en français. Donc on investit dans des startups du secteur de la blockchain et des actifs digitaux. Alors nous, plus spécifiquement, on regarde beaucoup tout ce qui est B2B, tout ce qui est outils pour l'adoption institutionnelle et pour faciliter l'adoption par les entreprises. Et je pense qu'on aura le temps d'en parler.
Carrément. Est-ce que tu peux rappeler quand tu as créé Lilblock Partners? Je crois que c'était en 2018 ou 2018, il me semble.
2019. Après, on a commencé à bosser dessus en 2018. On a commencé à faire des investissements perso. On a, voilà, c'est quelque chose, ça a été un process. Et après, on s'est lancé à fond, full time 2019.
Ok. Je te propose de passer aux coulisses de la création de Lilblock Partners. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment, pourquoi avoir choisi le secteur de la blockchain?
Ouais, bah en fait, on est arrivé dans le secteur. Donc on est trois fondateurs et on est tous les trois tombés dans la blockchain séparément pour des raisons différentes. Moi personnellement, j'ai toujours eu un côté à la fois d'aimer l'investissement et un côté assez tech, assez geek. Et donc quand j'ai vu voilà les Ethereum notamment sortir, j'ai commencé à m'y intéresser et j'ai commencé à miner. À miner chez moi, à apprendre comment ça fonctionne, etc., à jouer avec, en fait, à comprendre les sous-jacents et de la technologie. Et ça m'a beaucoup plu et je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses à faire avec. Et donc, voilà, graduellement et assez naturellement, je suis tombé dedans, je dirais.
Ok. Donc, ouais, tes associés, vous êtes trois, c'est ça? Et tu les as rencontrés chez Goldman, c'est ça?
Alors, on est trois, donc Jean-Marc, David et moi. David, on était collègues chez Goldman. Jean-Marc, lui, a fait une assez longue carrière en private equity et en VC. Et tous les trois, on a commencé à regarder des investissements ensemble, en fait, dans le secteur, avant de réaliser qu'en Europe, il y avait très peu de fonds de VC et que ce sujet d'adoption B2B était en train de devenir clé. Et donc, on s'est dit, on a décidé de se lancer.
Ok. Est-ce que justement, tu peux entrer un peu dans les coulisses de ce démarrage? Comment ça s'est fait? Comment vous êtes dit, tiens, on va lancer un fonds de VC? Est-ce qu'il y a eu des étapes un peu préalables?
Oui, en fait, je pense que dans notre cas, ça s'est fait entre guillemets un peu organiquement, un peu naturellement. On a approché le truc en tant qu'investisseur. On s'est dit, voilà, c'est un secteur, c'est une technologie extrêmement puissante avec beaucoup d'applications, qui a beaucoup d'avenir. On a envie d'investir dedans. Donc, regardons le secteur. Et donc, on a commencé à regarder le secteur de différentes manières. À l'époque, forcément, l'investissement dans les cryptos, c'était d'un des principaux moyens pour investir. Mais il y avait aussi un certain nombre de startups qui levaient. Donc, on a commencé à regarder des startups. Et étant français, basé tous les trois à Londres, on a beaucoup regardé les choses en Europe. Et voilà, graduellement, on a réalisé que il y avait un gap de financement pour les startups blockchain en Europe, qu'on pouvait apporter beaucoup de valeur à ces startups en les accompagnant, et que donc voilà, on avait tout intérêt. Enfin, il y avait un marché finalement pour lancer un fonds. On a aussi beaucoup échangé à l'époque et on continue à le faire avec des institutionnels, des entreprises, des grandes entreprises. Et même en 2018, hein, il y avait un vrai intérêt pour le secteur, mais une certaine incompréhension, une certaine incapacité aussi à travailler avec des petites entreprises, des petites startups. C'est difficile pour un grand groupe de travailler avec une petite startup. C'est difficile pour les grandes entreprises, institutions de faire de l'innovation en interne aussi, ça on le sait, que ce soit en Web3 ou tout autre d'ailleurs. Et donc voilà, là c'est un peu tous les ingrédients qui font qu'on a vu cette opportunité. Et puis, on a aussi vu beaucoup de talents et beaucoup de fondateurs en Europe et en France innover et donc ce vivier de start-up qui nous permet à nous d'investir dedans.
Ok. Tu parlais justement qu'en 2018, vous commenciez justement à vous intéresser au secteur, à investir. J'imagine du coup, tu as investi dans des ICO, mais ça, c'est plus à titre perso. Et est-ce que tu as commencé à passer voir des decks à ce moment-là? Et si oui, est-ce que c'est dans le cadre de Goldman ou c'est vraiment à titre perso, tu cherchais des decks de boîtes qui cherchaient vraiment à lever
Oui, bah en fait, c'était plutôt à titre perso, c'était pas via Goldman à l'époque. Aujourd'hui, oui, mais on a cette relation-là. Mais à l'époque, oui, c'était des relations perso, c'était du réseau dans le secteur qui permettait de voir des deals en cours. Donc voilà, donc on a pu regarder un certain nombre d'investissements qu'on a parfois fait en tant qu'angel, mais et tout ça a mené à la création du fonds. Et aujourd'hui, voilà, le sourcing est assez différent forcément.
Ok. Et donc, comment ça s'est passé? Comment, avec tes associés, vous avez un peu franchi le cap? Vous avez dit, OK, on quitte Goldman pour créer notre fonds VC?
Ben, ça, c'est toujours un peu, c'est un peu la décision difficile, mais je dirais qu'on était trop intéressé par le secteur pour ne pas passer plus de temps dedans. On est arrivé à un point où, voilà, on travaillait plus pour le fonds que dans notre job et c'était pas tenable et pas viable. Et on pouvait voir cette opportunité qui était pour nous, qui était devenue très très claire pour nous. Et voilà, c'est devenu une nécessité de faire le saut. Mais je pense que de la même manière que pour une startup, il y a toute une phase. Voilà, nous, chacun avait découvert la blockchain depuis quelques années. 2018, ça a été l'année où on a vraiment fait du travail pour comprendre est-ce que, au final, c'est un business, un fonds de VC peut se lancer de la même manière qu'une startup veut comprendre est-ce qu'il y a un marché, est-ce que les clients veulent de mon produit, etc., etc. Donc, avant de se lancer, souvent, on a quand même une idée. C'est mieux, je dirais. Et on a fait ce même travail.
Ok. Tu disais qu'aujourd'hui, tu as des relations avec Goldman, notamment sur peut-être des échanges de deals. J'imagine, du coup, vous êtes parti en bon terme et que votre départ pour créer un fonds VC a été bien perçu côté Goldman Sachs.
Oui, absolument. Oui, absolument. Non, il a été bien perçu. Et puis, c'est toujours intéressant d'échanger avec eux. Aujourd'hui, ils ont une grosse équipe sur les actifs digitaux. Ils ont fait un certain nombre d'investissements dans des startups du secteur aussi. Des startups autour de tout ce qui est exécution, de ce qui est plutôt les outils KYC AML, tout ce qui est infrastructure sous-jacente. Je me souviens d'une stat qui est sortie récemment. Je crois que c'était 55 des top 100 banques mondiales ont fait des investissements dans des startups du secteur. Ça, c'est une stat assez récente. Donc, ouais, les institutionnels sont quand même très présents dans les startups et veulent pousser en fait la création d'outils qu'ils pourront utiliser dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, les banques peuvent difficilement, dans la majorité des cas, toucher le sous-jacent crypto.
Ok. Et donc, vous avez décidé avec tous les trois de créer ce fonds, que ce soit vraiment, ça devienne vraiment votre activité principale. Vous quittez Goldman. C'est quoi après les grandes étapes pour vraiment rendre le fonds officiel?
Alors, c'est assez simplement, un fonds de VC, c'est lever des fonds auprès d'investisseurs. Ça peut être des familles, ça peut être des entreprises, ça peut être des investisseurs institutionnels, etc. Et puis de l'autre, commencer à identifier des startups et déployer ce capital. Donc il faut aborder les deux en même temps. Et c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, voilà, on a levé un premier fonds qu'on a déployé complètement, et on lève actuellement un second fonds.
Ok. On reviendra là-dessus. Ouais. C'est pas mal de questions intéressantes sur la partie justement trouver des investisseurs. D'ailleurs, je crois que dans le jargon, on parle de LPs. Tu pourras revenir là-dessus. Comment tu t'y es pris concrètement pour trouver les premiers tes premiers investisseurs?
Au début, c'était un peu comme une startup finalement. C'est du friends and family, c'est nos contacts personnels à tous les trois. Et ensuite, graduellement, on élargit le réseau et donc on a pu lever auprès de high net worth, de family office et même d'institutionnels du secteur, institutionnels financiers. Et puis aujourd'hui, on parle aussi à des stratégiques du secteur, etc. Donc okay. Ça se fait, c'est quelque chose qui se fait petit à petit et on continue.
Ok, ça marche. Et tu parlais aussi, donc d'ailleurs, juste pour revenir sur la première partie, on parlait de LPs. LPs, si je ne dis pas de bêtises, ouais. C'est Limited Partners.
Oui, c'est ça. Donc LPs, c'est Limited Partners. Ça fait référence à quand les fonds parlent de GPLP, c'est la structure légale. C'est comme ça que fonctionnent et sont structurés les fonds de private equity et les fonds de VC. Donc, les partenaires d'un fonds de VC sont les general partners. Donc, c'est pour ça que parfois, ils mettent sur LinkedIn general partner. Et les limited partners sont les investisseurs. Ils sont limited parce qu'ils ont un peu moins de droits. Ils n'ont pas le contrôle sur où le fonds va investir. Alors, ils ont des droits économiques, ils ont quelques droits de gouvernance. Voilà, c'est un peu d'où vient le terme limited partners LP. On retrouve en crypto, mais pour d'autres choses, du coup.
Ok. Et sans rentrer trop dans les chiffres, mais en gros, j'imagine que la target, quand vous avez commencé à lancer ce premier fonds, c'était quelques millions d'euros.
Ouais, bah, quelques dizaines, je dirais, plutôt.
Ok.
Ouais.
Ça marche. Et sur la partie, justement, trouver des fonds dans lesquels investir, comment ça se passe? Vous avez contacté, vous avez, j'imagine, peut-être du sourcing sur des boîtes Web3, crypto qui vous intéressaient, vous avez contacté, vous avez été approché. Comment ça s'est passé pour trouver vraiment ces premières boîtes?
Ouais, ben, c'est un ensemble de choses. Je dirais qu'on a commencé assez tôt avec l'investissement perso. Donc, on avait ce réseau-là dans le secteur Web3, blockchain. Bon, à l'époque, on n'en parlait pas de Web3, ça n'existait pas ce mot-là. Mais secteur blockchain, Active Digital. Aujourd'hui, et puis dès ces premiers investissements, les deals, c'est une combinaison de choses. Donc, le sourcing, la première source, c'est des deals qui nous sont référés. Donc, c'est des fondateurs qui nous parlent de d'autres startups qu'ils voient, c'est d'autres VC, c'est des experts du secteur, c'est des employés d'institutions financières ou d'entreprises qui ont parlé à ces startups, qui ont monté ces startups, etc., etc. Donc c'est vraiment des referrals. Ça c'est notre première source et la plus importante source. Ensuite on a de l'inbound, donc c'est-à-dire les fondateurs des startups qui viennent nous voir directement en nous disant voilà, je suis en train de lever voici mon deck, parlons. Et puis finalement, on a aussi de l'outbound, il y a certains sujets parfois qu'on a envie de creuser, et donc on va identifier une verticale assez spécifique, et puis on va contacter les startups dans le secteur. Donc le sourcing pour nous, c'est un mix de ça,
Ok, et pour les premiers, les tout premiers qui ont justement été clés, j'imagine, pour la suite, c'était un mix des trois ou il y avait une catégorie en particulier? Est-ce que c'était vraiment peut-être que du referral ou que de l'inbound?
Ben, c'est surtout du referral, je dirais. Pour les premières et le reste du portefeuille. C'est surtout du referral, ouais.
Ok. Et ça, c'est intéressant parce qu'on pourra revenir là-dessus après, mais le fait que ce soit du referral, ça veut dire qu'il y a une vraie solidarité, t'agir au niveau des VC, plutôt qu'une compétition où, ah, tu vas me piquer ce deal, c'est plutôt, ah, tiens, je vais investir là-dedans, est-ce que tu veux participer aussi?
Ben, il y a un peu les deux, en fait. Hein, mais disons que les VC vont rarement investir seuls. Donc à partir de là, on comprend que et les VC vont voir un certain nombre de deals, d'autres vont voir un autre nombre. C'est intéressant pour nous de débattre et d'échanger sur ce qu'on a vu. Ah, t'as parlé à machin, ok, c'est le compétiteur, donc c'est intéressant. Donc voilà, il y a une collaboration avec une compétition un peu mélangée. Donc voilà, mais voilà, les VC, je dirais, sont quand même plutôt souvent ouverts pour échanger. On établit voilà des relations proches avec un certain nombre d'acteurs du secteur et on a l'habitude de travailler ensemble, d'échanger des deals et de faire des deals ensemble. Ce qui est intéressant, c'est de créer constituer un tour de table avec des VC qui sont complémentaires. C'est-à-dire que des VC qui peuvent apporter une valeur variée et complémentaire et complète à la startup. Donc ça, c'est ce qui intéresse aussi les VC, ce qui nous intéresse nous beaucoup à chaque fois qu'on fait un deal. La construction du deal, elle est aussi très importante pour le succès de la startup.
Ok. Et les VC, notamment les premiers VC avec lesquels tu as interagi pour ces premiers deals, j'imagine que ce n'était pas forcément des VC blockchain, mais peut-être des VC un peu plus traditionnels?
Oui, un peu de tout. Par exemple, on fait beaucoup de fintech parce que forcément, c'est le premier use case de la blockchain. Donc on échange beaucoup avec des VC fintech. On a fait des deals en food, donc là on a échangé avec des VC en food. Voilà, on peut voir déjà les complémentarités qu'il peut y avoir entre les VC. Donc il y a un peu de tout. Après, on travaille beaucoup forcément avec des VC blockchain, Web3, Active Digital, bien sûr.
Ok. Tu parlais de food et de fintech. Est-ce que tu peux revenir sur les premiers deals de Leadbug Partners qui ont été un peu structurants pour la suite?
Ouais, ben je peux parler d'une boîte que tout le monde connaît probablement assez bien. On a investi dans Bitpanda. Bitpanda, c'est un exchange crypto qui est basé en Autriche, ouais, et puis qui opère dans tous les pays européens, qui du coup a commencé en tant qu'exchange crypto, et puis aujourd'hui sur lequel on peut acheter des commodities, on peut acheter des ETF, on peut acheter des actions, donc voilà, qui devient un néo broker exchange de tout type d'actifs financiers qu'on peut acheter à partir de 1 euro. Donc ça a été un deal important pour nous. Et avec le, voilà, on travaille beaucoup avec les fondateurs et je pense qu'il y a encore de belles choses à faire.
Et c'est intéressant, par exemple, Bitpanda, quand vous avez investi dedans, c'était Bitpanda était à quelle étape? Par exemple, on était au tout début ou c'était déjà bien implanté?
Oui, ben, Bitpanda, c'est un, on a fait la série B. Donc ils étaient quand même assez implantés. Nous, on fait des deals de seed à B, donc c'est un des deals les plus late stage qu'on a pu faire. Et ils ont aujourd'hui voilà, un gros potentiel de croissance en Europe et à travers un certain nombre de leurs produits qu'ils continuent à lancer.
Ok. Est-ce que on peut revenir sur d'autres deals aussi qui ont, parmi les premiers deals qui ont été structurants, je crois qu'il y a Yuga Labs, ceux qui sont à l'origine des fameux
Ouais.
apes, les Bored Apes, les fameux NFT de singes qui se vendent des centaines de milliers de dollars.
Ouais, donc oui, on a investi dans Yuga Labs qui en effet ont minté la collection Bored Apes. Je pense que ce qui est intéressant là-dedans pour nous, c'est pas seulement voilà cette collection, c'est tout ce qu'ils vont construire autour en fait. Donc nous on voit Yuga Labs vraiment comme une boîte qui est en train de lancer tout un univers autour d'une marque qui sont les Bored Apes, qui est je dirais la marque la plus reconnue dans le monde du Web3 aujourd'hui. Et voilà ils ont lancé aujourd'hui The Other Side qui est ce qu'on peut appeler une métaverse, mais qui pour moi ressemble, voilà, qui se ressent beaucoup, beaucoup comme du gaming finalement. Puis ils ont travaillé avec Adidas, voilà, ils ont un certain nombre de collaborations. Donc ça, c'est cet investissement-là qu'on a fait sur Yuga, qui va beaucoup plus loin finalement qu'une collection de NFT. Et ils ont aussi ouais, une vision assez claire sur comment réfléchir au droit à l'IP en fait, voilà, à l'IP du Bored Apes, et c'est pour ça qu'ils ont acheté la CryptoPunks et d'autres collections, et qu'ils ont ouvert en fait les droits de ces collections-là. Donc en fait, les droits commerciaux sont donnés à tous les détenteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes utiliser leur Bored Apes et le vendre, par exemple, pour il y avait un restaurant de burgers sur la côte ouest qui avait ouvert avec un certain Bored Apes. Il y en a eu qui ont été dans des clips, on en a eu sur des bières, etc., etc. Et donc ce droit commercial est donné aux détenteurs. Donc ça c'est assez intéressant et ça permet en fait de c'est une façon de créer de la valeur avec le travail de son de sa communauté en fait. Et je pense que ça c'est aussi l'essence du Web3, c'est de donner à la commune aux communautés en fait, aux communautés des différents projets de la valeur et valoriser leur participation et créer de la valeur pour tous finalement.
Ouais, pour la petite histoire, j'avais vu que Snoop Dogg et Eminem avaient fait un clip ensemble, chacun avait un Bored Ape et du coup dans le clip on voit
Ouais.
leurs Bored Ape respectifs, c'est assez drôle.
Par exemple, ouais.
Quand tu as investi dans Yuga Labs, c'était à quelle étape pareil du projet? La collection était déjà bien connue. Alors, je me souviens que c'était avant le lancement de leur token, le ApeCoin.
Ouais, exactement. Ouais. En fait, ils ont juste fait un tour de table pour l'instant. Et c'était en effet, c'était juste avant ApeCoin, c'était avant d'annoncer The Other Side. C'était avant les acquisitions d'autres collections qu'ils ont faites. Mais la collection était bien en place, ça c'est sûr.
Ok. Et par rapport à, par exemple, ces deux projets, donc Bitpanda et Yuga Labs, j'imagine qu'il y a eu un bon retour sur investissement sans trop rentrer dans les chiffres, parce que j'imagine que c'est confidentiel. Est-ce que c'est forcément le cas pour tous les projets dans lesquels on investissait? J'imagine que non. Ou justement, où il y a une telle sélection des projets qui fait que, voilà, à chaque fois, bon, j'imagine quand même que ce qui est assez rare et qu'on ne peut pas tomber toujours sur
Ouais.
les bons wagons non plus, quoi.
Non, c'est sûr, et ça c'est l'essence du VC aussi, c'est que certaines startups ne réussiront pas. Si on reprend, là je prends un peu des statistiques un peu générales du monde du VC, mais c'est à peu près 2/3 des startups qui font faillite, qui reçoivent du capital de VC. Donc nous, ce qu'on recherche, et ce que cherchent tous les VC, c'est des startups qui sont très scalable, qui ont le potentiel de devenir des licornes, parce qu'on sait qu'il y aura des échecs, et c'est normal, c'est high risk, high reward, forte croissance potentielle. Et parfois, ça fonctionne pas. Donc, ça, on sait qu'il y en aura. C'est le cas pour tous les VC. C'est comme ça que cette industrie fonctionne. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de donner leur chance à beaucoup de fondateurs, de réussir quelque chose de dingue.
Ok. Et j'imagine que quand même aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez accumulée depuis le début, parce que ça fait 3 ans officiellement au moins que vous êtes lancé, vous avez, j'imagine, affiné un peu vos process pour trouver des projets encore plus qualitatifs. Comment vous y prenez justement en termes de process aujourd'hui?
Ouais, bah en fait nous, la façon d'analyser un deal n'a pas trop changé depuis le début. On va focaliser sur un certain nombre de points. Je dirais, le plus important, c'est toujours l'équipe, de toute façon. Est-ce qu'ils sont capables de déployer, d'exécuter sur la vision qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont les contacts, les connaissances, le track record, etc., de le faire? Est-ce que dans l'équipe, on couvre tous les besoins qu'auront la startup? Est-ce qu'il y a des besoins qui manquent? Est-ce qu'il y a des connaissances et savoir-faire qui manquent, qu'on pourra recruter ou pas? Est-ce qu'ils ont une bonne alchimie, etc.? Donc, il y a plein de sujets au niveau de l'équipe qui sont absolument clés. Donc, le premier point équipe. Deuxième point, c'est tout ce qui est autour du problème et du marché. Est-ce que ils cherchent à résoudre un problème, un vrai problème? Est-ce que le marché est suffisamment grand? Troisième point, c'est le produit. Et voilà, quel est le produit, comment ils l'ont développé, comment ils le voient, etc. Le quatrième, c'est tout ce qui est traction et stade de développement. Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'ils ont une, voilà, où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'ils ont une traction? Est-ce qu'ils ont une accélération d'utilisation? Est-ce qu'une accélération des revenus, etc. Tout ce qui est les KPIs. Et puis tout ça va informer tout ce qui est termes du deal. Donc, est-ce que la valorisation et les termes du deal sont cohérents, en fait, avec le potentiel de la startup, avec le stade de développement de la startup, etc.
Okay.
Et donc ça c'est des choses qu'on a mis en place dès le début et qu'on continue à faire. Et pour ta question, voilà, qu'est-ce qui a évolué? Je dirais que ce qui est intéressant pour nous, c'est le fait qu'on est dans le marché depuis 4 ans, même plus, et de voir beaucoup de deals sur un secteur spécifique, bah, nous permet de devenir assez experts de beaucoup de sous-secteurs, de comprendre ce qui marche, ce qui marche pas, et d'informer nos choix sur les deals, et puis d'informer et d'aider et d'apporter plus de valeur aux startups dans lesquelles on investit, en fait, et de bien accompagner les fondateurs.
Ok, ouais, on reviendra d'ailleurs sur l'aide apportée aux startups, qui n'est pas forcément financier. Pas mal de questions sur ce que tu viens de dire par rapport au troisième point qui est le produit. J'imagine que du coup, vous investissez que dans des boîtes qui ont déjà un produit, ou du moins une première version de leur produit, ou jamais vous investissez sur un peu une proposition de valeur sans produit.
Alors oui, nous on n'a jamais investi dans une boîte qui avait rien développé encore. C'est vrai. Après certaines, on pourrait considérer ça comme du pré-seed. C'est vraiment, il y a une équipe, une idée. Et donc ça c'est, on n'en a pas fait. On a fait des produits, des startups qui étaient au stade, on appelle ça MVP, donc qui ont un produit qui peuvent être montrés, qui est parfois testé, mais sans revenu. Et on fait beaucoup d'investissements qui sont post-revenus aussi. Ça après, ça dépend des VC.
Ok. Et tu parlais ouais, du premier point qui est l'alchimie, entre guillemets, enfin le fit tout simplement entre toi et les fondateurs, que ce soit
Ouais.
le rapport humain, est-ce que tu les sens armés aussi pour développer une boîte, leur track record? Ouais, ça me fait un peu penser aussi à Kima qui, j'ai l'impression, se base aussi beaucoup là-dessus, alors peut-être sur des tickets un peu plus faibles et qui va vraiment privilégier pareil, l'aspect team, et finalement parier sur une team de fondateurs. Est-ce que ça t'est déjà arrivé finalement d'avoir ce premier, un bon fit et que finalement il s'avère pas si bon que ça par la suite? Parce que finalement, c'est dur ouais, d'apprendre à connaître quelqu'un assez rapidement où tu as des techniques pour vraiment tout de suite un peu creuser assez rapidement, facilement et vraiment un peu cerner la personne et comment ça se passe dans la boîte.
Ouais, bah c'est sûr que c'est quelque chose qui est pas facile. Après, je prends juste un détail sur ce que tu dis, mais dans ce qu'on va faire, c'est aussi d'avoir plusieurs personnes de l'équipe qui parlent avec le fondateur. On parle aussi souvent à des clients ou des potentiels partenaires ou des gens qui pourraient travailler avec eux, etc. Vous les avez croisés, vous en pensez quoi, etc. C'est ces genres de discussions que nous on a beaucoup, qui créent de la valeur pour nous dans la décision d'investissement, qui créent de la valeur pour la startup aussi, parce qu'en fait souvent des potentiels clients ou partenaires. Donc même si on n'investit pas, parfois on a pu donner des clients à des startups, et c'est clair qu'une fois investi, on va beaucoup pousser pour que ça le devienne. Donc voilà, il y a un certain nombre de techniques, on va dire. Après, est-ce que c'est arrivé que on se froisse complètement avec des fondateurs? Non, non, ça nous est pas arrivé. J'espère que ça nous arrivera pas. Mais voilà, pour ton point sur Kima, pour nous en tout cas, ce qu'on fait, c'est prendre des paris ou des faire des investissements, je dirais plutôt à forte conviction. Donc avec un nombre de startups dans notre portefeuille finalement assez petit par rapport aux VC moyens. Ce qui nous permet du coup de passer plus de temps avec les fondateurs, de mieux les aider, de mieux les comprendre et de les soutenir là où c'est nécessaire finalement.
Ok. Ouais, donc la stratégie, c'est avoir peu de boîtes en portefeuille, mais vraiment de bien les accompagner en fait, d'avoir un accompagnant qui n'est pas que financier, mais aussi peut-être sur une partie conseil, mise en relation avec des partenaires clés. C'est vraiment l'idée, ouais.
Exactement.
Ok. Et pour venir encore plus dans la stratégie, est-ce qu'aujourd'hui, à partir du moment où il y a une boîte Web3 qui est attractive, potentiellement adressable par votre fonds de VC, ou au contraire, vous avez vraiment des critères, que ce soit en termes de secteur, en termes de techno, en termes de stade d'avancement de la boîte?
On a quelques critères. Donc nous, on regarde vraiment ce qui est B2B d'abord. Donc ça, ça exclut une partie du marché. Après, on regarde globalement et on regarde seed à série B. Beaucoup de boîtes cochent ces cases-là. Après, on est très content de parler à des boîtes même très tôt, de les suivre, d'échanger, de leur faire quelques intros là où ça peut les aider, etc. Donc ça, on reste toujours très très ouvert pour échanger avec les fondateurs.
Ok, tu peux rappeler juste les montants moyens levés entre guillemets par stat, par exemple, seed, série A, série B?
Ouais, alors ça c'est toujours un exercice difficile parce que ces derniers temps c'est devenu un peu parti un peu dans tous les sens. Mais seed, c'est du single digit million généralement, donc ça peut aller de parfois même en dessous d'un million, mais souvent voilà 1 million, 2 millions, jusqu'à peut-être 5 millions. La série A, on va souvent les voir aux alentours de 10-15. Ces temps-ci, peut-être plus proche de 10, depuis que les marchés sont un peu tombés depuis mars. Et ensuite, la série B, là, il y a vraiment une variation très importante, mais on peut parler à partir de peut-être 20, 25 millions jusqu'à quasiment 100 millions. Enfin, c'est assez variable. Ce que les startups font souvent, c'est de dire, mon premier tour de table, c'est du seed, mon troisième, du coup, c'est du série B. Mais forcément, le stade de développement peut varier. Le niveau d'accélération et la rapidité de croissance de ces boîtes et l'appétit des VC est variable. Donc voilà, ces labels-là, je trouve graduellement perdre de leur sens. Donc voilà, je fais petit astérix là-dessus.
Ça marche. Comment vous êtes structuré en interne pour prendre des décisions sur des deals? Est-ce qu'il y a une personne en particulier? Tu te concertes avec les deux autres associés?
Typiquement, ça c'est le cas dans la majorité des fonds, donc c'est un des partenaires qui va être lead sur un deal, qui va mener la due diligence et mener la discussion avec les fondateurs. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle un IC, donc Investment Committee. Donc c'est une réunion, on va échanger entre partenaires et on va analyser, étudier, critiquer, trouver des failles dans le potentiel investissement et on prend la décision ensemble. Donc ça c'est assez typique. Alors nous on va souvent aussi amener un deuxième partenaire sur les trois dans les discussions avec le fondateur quand on avance bien. Et du coup ça nous permet de prendre la décision tous ensemble et de bien l'informer et puis de pouvoir tous les trois aussi bien comprendre la startup et bien l'aider et la soutenir une fois qu'on a investi.
Ok. Ça arrive souvent d'ailleurs qu'il y ait des no-go.
Oui, de toute façon, enfin nous sur 100 decks qu'on reçoit, on doit faire un investissement. Donc alors je vais pas dire qu'on fait un call pour les 100 decks parce que sinon on n'y arriverait plus, mais il y a beaucoup de no-go, ouais. En fait, il y a quasiment sur que des no-go. Okay. Et ça c'est le cas à travers l'industrie.
OK. Je parlais plus voilà, il y a un des associés.
Ah pardon, un des associés qui veut et les autres.
Ouais.
Non, enfin, dans notre cas, généralement non. Surtout quand, ce qu'on fait, c'est, enfin, dans notre cas, c'est beaucoup d'échanger assez tôt dans la discussion et la due diligence avec la startup pour faire remonter des risques, des pushbacks, des points à creuser, etc., très rapidement. Et donc, en fait, on est plutôt tous d'accord pour passer. En fait, on est tous d'accord pour dire, on va pas participer à ce tour de table. Donc, c'est plutôt que ça se fait de manière plutôt naturelle.
Ok. Et en général, c'est plutôt aussi pour quand il y a un après, c'est plus pour cadrer la discussion sur moi, je pense qu'il y a, faut creuser tel point ou cadrer la discussion autour de tel point qui mérite
ouais.
Creuser. Ok.
Ouais, c'est ça. Et puis ça nous permet aussi, une fois qu'on a investi, de dire ok, on a identifié un ou deux endroits où on voyait des risques, faut qu'on soit vigilant là-dessus, faut qu'on les aide dessus, etc. etc. Tout est difficilement 100% parfait, quoi. Y a toujours des choses à faire dans une startup qui est jeune où il y a beaucoup de cases à cocher et beaucoup de choses à faire. Et des priorités à gérer, donc ça c'est assez normal.
Ouais, bien sûr. Et sur la prise de décision au niveau du l'argent investi, du montant investi, la décision est prise à quel moment?
Comment est-ce qu'on réfléchit au montant investi? C'est relatif à la taille du fonds en fait. Tous les fonds décident d'un certain nombre d'investissements qu'ils veulent faire avec leur fonds, un certain stade de développement, etc. Et ça leur donne un ticket moyen. Sachant que les fonds de VC vont garder une partie de leur capital pour pouvoir réinvestir dans les meilleures startups de leur portefeuille. Un taux qui est assez variable, mais qui est souvent aux alentours de 50% ou même plus. Et donc, voilà, sur la base de ça, on a un montant moyen par deal. Et ensuite, par rapport au deal, selon le rôle qu'on veut avoir, est-ce qu'on veut être lead, est-ce qu'on veut être follow, qui d'autre il y a sur le tour de table, on va moduler la taille de l'investissement.
Ok, c'est intéressant. Donc, c'est-à-dire que sur une enveloppe globale, est-ce que vous allez définir, ok, par exemple, ce fonds-là, on va dédier X% maximum sur un projet et on va accepter au maximum X projets.
Oui, c'est ça. Et donc, on a exactement. Et donc, voilà, c'est exactement ça. Et on va dire, on va allouer X millions ou X% du fonds pour les premiers tickets et X% pour les seconds tickets. Et on va faire tel nombre de premiers tickets et tel nombre de seconds tickets, du coup. Et ça nous donne une idée de la taille. Alors, la réalité, c'est que la vie est ce qu'elle est. On va pas toujours faire le même chiffre, mais en moyenne, on y arrivera sur la vie du fonds.
Ok. Ce serait intéressant qu'on revienne justement sur un peu le fonctionnement d'un fonds. Parce que finalement, quand tu crées un fonds, donc vous êtes un fonds de VC qui s'appelle Leadblock Partners, et en fait, l'idée, c'est que vous allez créer des fonds avec votre fonds de VC. Est-ce que tu peux un peu expliquer le principe?
Donc en fait, pratiquement comment fonctionne un fonds de VC, on prend ce qu'on appelle des commitments d'investisseurs qui investissent du coup dans le fonds, qui investissent dans le fonds, et ensuite nous sommes responsables de déployer ce capital dans des startups. Et les fonds de VC, il faut savoir que c'est des fonds ce qu'on appelle fermés, donc c'est-à-dire que on commit dans le fonds et ensuite pendant la période d'investissement, plus personne ne peut investir dedans. Et à la fin, on rend tout le capital, le fonds entre guillemets est dissous, enfin pas entre guillemets, il est dissous. Et c'est pour ça qu'on entend toujours parler des fonds levés, un fonds 1, un fonds 2, un fonds 3, etc. Parce qu'on ne peut pas continuer à empiler les investisseurs dans les anciens fonds, dans les fonds existants, en fait.
Je me souviens que tu m'avais dit ouais, qu'en gros, il y a aussi des fonds, alors c'est peut-être un peu plus marginal, mais il y a des fonds qui existent qui sont sans fin, et donc on peut tout le temps y rentrer, tout le temps y sortir.
Oui, donc il y a des fonds evergreen, c'est comme ça qu'on les appelle, et qui existent, ça reste rare dans le secteur, mais absolument. Après, dans le secteur Web3, c'est un peu plus commun, surtout pour des fonds qui font principalement du token. Alors, en fait, la problématique du VC et la raison pour laquelle on fait des fonds fermés, c'est parce que c'est très difficile pour un investisseur de sortir ou de rentrer et de lui donner un prix défendable, en fait, une part du fonds. Comment valoriser la part d'un fonds quand les tours de table sont privés, peuvent avoir lieu tous les ans? Est-ce que la valorisation du dernier tour de table est véritablement la bonne estimation de la valeur de la boîte, etc. C'est assez compliqué. Si je compare ça à un fonds action, un fonds public qui investit voilà, dans les boîtes du CAC 40, quoi, disons, là, c'est très facile. Tous les soirs, on a le prix de chaque action, on multiplie par combien on en a et c'est la valeur du fonds. Donc, on divise par le nombre d'investisseurs et le nombre de parts et c'est bon. Ça, c'est mécanique. Et donc, c'est pour ça qu'on peut rentrer et sortir de ce type de fonds au jour le jour. Un fonds de VC, c'est dans la grande majorité des cas, dans 99% des cas, pas le cas.
Ouais, c'est normal. Ouais, c'est comme si je rentrais dans votre fonds là maintenant, alors que du coup, c'est-à-dire que je profiterais des investissements dans Bitpanda, dans Yuga Labs, alors que j'ai rien fait, que j'ai pas pris le risque que les
LPs
ont pris.
Exactement.
Est-ce que tu peux un peu expliquer la stratégie d'un fonds chez vous? Donc là, vous êtes au deuxième, par rapport au premier, par exemple. Il est loqué entre guillemets sur combien d'années et c'est quoi la stratégie entre guillemets d'investissement par exemple? Est-ce que vous avez dit ok, on investit par exemple 25% max par an et comment après on redistribue aussi les bénéfices aux LPs?
Ouais, donc nous on a créé un fonds où on va rendre le capital aux LPs à chaque exit, donc il a une durée de vie de 8 ans, mais si on fait une sortie. Donc, si on vend notre participation, on rend le capital. Donc, réellement, en pratique, ce sera probablement plus court. Après, en termes de stratégie, on ne s'est pas fixé des règles aussi précises. On doit investir 25% par an ou quelque chose comme ça. Le problème avec ça, c'est de rater des belles opportunités. Donc, ça, c'est pas des limitations qu'on va se mettre. On va plutôt se mettre des objectifs de déployer un certain nombre d'années, etc. Et donc aujourd'hui on a déployé quasiment tout le fonds en 18 mois, donc on est, je dirais, allé un peu plus vite qu'on pouvait s'y attendre, mais voilà, le secteur a quand même vraiment explosé, il y a eu beaucoup de deals intéressants et de deals potentiels et là ça continue, et c'est pour ça qu'on lève un fonds 2 et qu'on va continuer à investir dans le secteur.
Ok. Et par rapport à la stratégie, on va dire, de votre fonds de VC, est-ce qu'il y a vraiment une différence avec un fonds VC classique, j'ai envie de dire?
Pas forcément. Enfin, je dirais la différence, c'est qu'on peut investir en token. Un fonds de VC classique va investir en equity uniquement dans des startups tech. Donc la capacité d'investir en token, elle est un peu différente. Elle implique une liquidité qui est plus rapide. Elle implique une réflexion quand même sur quand est-ce que je vends, etc. Donc ça oui. Et les tokenomics, c'est quand même des mécanismes voilà, assez différents de ceux qu'on retrouve dans une dans un pack d'actionnaires dans un deal equity classique. Donc ça c'est la différence. Après, être un VC dans le monde du Web3, c'est toujours essayer de chercher des fondateurs qui ont une bonne vision, qui ont une bonne capacité d'exécution, qui vont mener un projet tech scalable à forte croissance et qui vont être capables d'en faire une belle réussite. Et au final, ça c'est ce que cherchent tous les VC à travers tous les secteurs, toutes les verticales et toutes les stratégies. Et donc ça, ce travail-là ne change pas en fait.
Ok. Pour venir sur le point de tout à l'heure, comment vous choisissez des boîtes dans lesquelles investir? On a parlé de pas mal de critères. Est-ce que vous faites aussi une estimation du chiffre d'affaires à venir l'entreprise, sachant que voilà, on est quand même dans le monde du Web3, c'est quand même assez approximatif, c'est-à-dire que le potentiel de gain est potentiellement énorme, même si les gains actuels sont peut-être moindres. Comment vous arrivez à vous y retrouver?
Ouais, ça va dépendre du stade de développement, mais si on parle d'une startup assez early stage, du type seed, série A, on va regarder les objectifs de revenus futurs, mais l'idée c'est d'être plutôt dans les grandes masses. On va pas se dire ils vont faire un point 240 millions l'année prochaine. Enfin, c'est sûr que ce sera faux, quoi. Par contre, ce qui est intéressant et important pour nous de comprendre, c'est est-ce que le revenu peut croître rapidement et la boîte peut scaler? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut générer du revenu sans recruter 100 personnes, pour le dire très simplement, et à quel point voilà, le marché est grand? C'est-à-dire que si on capture 100% du marché, il faut que le revenu potentiel soit très élevé pour que nous, on puisse faire un retour important et avoir un beau retour sur investissement finalement. Donc,
Ok.
c'est plutôt ça qu'on va regarder et la capacité de l'équipe à aller vers cette vision, que de regarder à 1 ou 2 ans s'ils peuvent voilà faire 1 million quelque chose. Maintenant, c'est clair que les startups vont lever tous les 12, 18, 24 mois. Pour pouvoir lever dans des bonnes conditions, il faut pouvoir atteindre un certain nombre de KPIs, dont de la croissance de revenus. Donc ça c'est sûr que ça sera un focus. Mais je dirais que c'est sa précision qui est moins importante, quoi, finalement.
Ok. Je t'ai jamais demandé, mais c'est quoi en fait le quotidien, enfin la journée type de Baptiste, cofondateur chez Leadbug Partners?
Ouais, je dirais que c'est assez varié parce qu'on en a discuté, mais c'est pas mal de regarder des decks et parler à des fondateurs d'abord, échanger avec des VC, échanger avec des contacts du secteur, leur dire ah t'as vu cette news, t'en penses quoi, comment ça va de ce côté-là, etc. T'en penses quoi de cette nouvelle tendance, etc. Voilà, c'est échanger des insights de secteur, c'est beaucoup de ça. C'est aussi bien sûr parler à des fondateurs de nos boîtes de portefeuille. Les aider, leur faire des intros, les aider à réfléchir, leur flaguer des choses importantes, leur donner du feedback sur ce qu'ils ont fait, sur leur communication, sur etc. etc. Et bien sûr, quand nous sommes en période de levée de fonds, c'est échanger avec des investisseurs pour lever pour notre fonds. Donc on doit à la fois lever pour le fonds et déployer dans des startups en même temps assez souvent.
Ok. Et d'ailleurs, par rapport à la levée aujourd'hui, tu cibles plutôt des institutionnels peut-être?
Oui, en fait, on a aujourd'hui, on échange. Donc, en fait, on a des commitments d'acteurs du secteur, on a des family office et on a des institutionnels, absolument. C'est une
Ok.
combinaison de ça.
Et ça t'arrive d'ailleurs d'aller les voir, d'aller les démarcher? Ou en général, c'est plutôt du referral ou parce que tu les connais déjà
Ça nous arrive de les démarcher, mais je dirais que c'est généralement plutôt du referral. C'est toujours plus facile d'avoir la bonne personne et d'être recommandé pour échanger. Mais on peut faire les deux.
Ok. Est-ce que tu peux me donner des échecs auxquels tu as dû faire face depuis le début
Des échecs, jamais, jamais.
Ok.
Non, je dirais que, comment dire, je dirais que finalement, on peut regarder un fonds un peu comme une startup. C'est-à-dire qu'en fait, on crée un business de zéro. On a lancé en 2019 et ensuite le Covid a frappé. Donc je dirais que ces quelques mois de Covid ont été forcément assez difficiles. Créer un business qui est où le relationnel est assez important a été compliqué initialement. Mais voilà, je pense que c'est un peu comme toutes les startups, on passe dans des phases qui parfois sont pas les plus fun. Mais si on s'accroche, on réussit et c'est voilà, c'est d'autant plus agréable quand les choses marchent. Voilà, et c'est une bonne leçon pour nous et ça nous permet de nous identifier avec les fondateurs parfois qui forcément passent par des moments difficiles. On l'en lit assez peu dans les médias. C'est toujours je lève ça, j'ai une croissance de dingue, etc., etc. Mais il y a d'énormes hauts et bas et dans l'entrepreneuriat et dans la création de startups notamment. Et voilà, c'est ce qu'on a pu voir aussi. Après, le secteur fin 2020-2021 a vraiment pick-up de manière assez incroyable. Et donc voilà, on était là pour le suivre.
Je pense connaître la réponse à la question que je vais te poser là, mais est-ce que le crash de Luna, ça a eu un impact sur l'écosystème, sur certaines boîtes, sur certains VC peut-être?
Oui, alors le crash de Luna et la baisse du secteur plus généralement, clairement, a eu un impact sur certains VC qui étaient très exposés. Peut-être le truc, c'est que dans le monde Web3, il y a des gens qui s'appellent VC, mais finalement, c'est plus des hedge funds. Ces acteurs-là ont clairement été impactés. Toutes les startups, voilà, je parlais de Bitpanda plus tôt, forcément, a été impactée par la baisse des volumes d'échanges et par la baisse des prix. Ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, je dirais que ce qu'on appelle là le crypto winter est quand même assez différent de ce qu'on a vu en 2018, 2019. À la base, quand même, la baisse des cryptos là, qui a commencé en décembre, le trigger, ça a été la macro. Finalement, ça a été l'édition de la Fed, etc. L'inflation et ces tendances-là, c'était pas des problématiques du secteur lui-même. Alors ensuite, Luna et certains fonds et certains acteurs, on peut parler de Celsius, on peut parler de Three Arrows Capital et d'autres qui étaient sur-leveragés et qui ont pas une mauvaise gestion du risque, une mauvaise gouvernance, ont voilà catalysé la baisse des cryptos en fait, ont créé de la peur dans le secteur. Mais quand on prend un step back et qu'on regarde aujourd'hui les développeurs qui continuent à rentrer dans le secteur, les annonces, on continue à voir de grandes boîtes qui rentrent dans le secteur. Là, juste ces 2 dernières semaines, on a eu une série de news entre Starbucks qui annonce un programme de fidélité avec les NFT, entre Nasdaq qui lance un système de custody, Fidelity, Citadel, Charles Schwab qui lance un exchange crypto. C'était qui encore? C'était Epic Games, donc ceux qui éditent Fortnite, qui lancent leur premier jeu sur les NFT. Ça, c'est que des annonces de grands majeurs de leur secteur qui lancent des projets structurels sur lesquels ils ont bossé depuis des mois, ou plutôt, je dirais, des années parfois. Voilà, ces choses-là continuent, vont pas changer et on voit vraiment une accélération. Et finalement, la baisse de la crypto, c'est un élément. Mais voilà, il faut penser adoption et croissance de l'utilisation de la blockchain et de sa technologie et pas forcément juste s'arrêter à la crypto. Alors c'est sûr que ça fait les gros titres, mais là ce qu'on voit en sous-jacent, c'est quand même une très forte croissance. Nous on a des startups qui offrent des outils de développement. Donc comment faciliter la création de produits on-chain et on voit leur pénétration chez les développeurs continuer à fortement croître. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nouveaux projets continuent à construire. Et ça c'est clé, et ça c'est quelque chose qui était différent il y a 4 ans.
Complètement. Et pour revenir d'ailleurs sur les 4 ans, quand tu prends le top CoinMarketCap de 2017 et tu le compares à celui d'aujourd'hui, bon, il n'y a pas beaucoup de crypto en commun. Je pense que ce qui a vraiment marqué aussi le dernier bull run, ça a été l'émergence de beaucoup de blockchain Layer 1 et Layer 2. Est-ce que tu penses que justement, comme en 2017 et par la suite, il va y avoir une sorte de recyclage, c'est-à-dire qu'il y a plein de layer 1 qui vont disparaître, ou au contraire, ceux qui ont été créés là, ils vont vraiment rester, et que là, c'est très dur pour un layer 1 qui se crée de vraiment de s'implanter dans le marché.
Ouais, alors là, je pense que la guerre des Layer 1, elle n'est pas terminée, honnêtement. Ethereum a clairement une longueur d'avance énorme. Et je pense va continuer à l'avoir. Je reste assez confiant là-dessus. Voilà, pas seulement parce que c'est la référence, mais parce que grâce à tout ce qui est construit autour, en fait. Tout ce qui permet d'utiliser et de déployer dessus, toutes les intégrations qu'on peut faire, tous les outils qu'il y a, tous les acteurs qui sont déjà en place et qui facilitent la création de toujours de nouveaux produits et services par-dessus et de couches supplémentaires. C'est sur une nouvelle blockchain, le problème, c'est qu'il y a juste le protocole, en fait. C'est-à-dire qu'il faut tout construire. Et ça ralentit vraiment les choses. Là, récemment, on a eu des nouveaux protocoles. Je pense qu'on maintenant on parle de quatrième génération. Après, on commence à s'y perdre. Avec Aptos, par exemple, qui avait levé 150 millions. Je pense qu'on va continuer à voir ça. Et à la limite, tant mieux. Parce qu'il faut que les protocoles s'améliorent. Ça reste trop cher. C'est insuffisamment scalable. Il faut que les langages continuent à s'améliorer, etc., etc. La facilité d'utilisation s'améliore, etc. Donc, je lisais là des développeurs parler de déploiement sur Aptos qui était la difficulté. Ils disaient que c'était 4 sur 10 par rapport à 9 sur 10 sur Solana, que Solana par exemple. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc ça, on va continuer à le voir. Nous, en tant que fonds, on n'investit que dans des startups qui construisent au-dessus des protocoles. Et notre point de vue là-dessus, il est assez simple. Il est de dire que ces startups passeront sur le protocole le plus adapté quand il sera là. Si un protocole est meilleur, il y a plus d'utilisation, il y a plus d'outils, il y a plus d'effets de réseau, etc., elles passeront dessus. Pour donner un exemple, ils ont sur 6 ou 7 protocoles aujourd'hui.
Ouais.
Donc, mais ils ont une marque dominante, les gens ont confiance dans leurs produits, etc. Et donc, finalement, c'est pas grave sur quelle chaîne ils ont commencé et sur quel layer one réussira et gagnera de la part de marché demain. Je pense qu'AV sera toujours là.
Complètement. Donc, ouais, c'est que la vision, c'est que finalement les applications décentralisées soient un peu blockchain agnostique.
Ouais. Ouais, c'est ça. Et je pense que beaucoup de fondateurs le réalisent et ils nous disent d'ailleurs, oh bah tu sais, moi je suis blockchain agnostique. S'il faut changer, je changerai et les clients viendront avec moi.
Yes. Je te propose de conclure cette interview qui est vraiment hyper intéressante. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les actualités de Leadblock Partners? Bon, on a parlé du deuxième fonds là qui est en cours. Est-ce qu'il y a d'autres actus peut-être?
Ouais, alors on a un peu de recrutement, donc n'hésitez pas à nous contacter. On cherche à la fois un nouveau stagiaire pour janvier et on cherche un junior, donc les deux sur Paris. En effet, donc on a le fonds 2 en cours et puis on a fait un certain nombre de nouveaux investissements qu'on va bientôt annoncer. Donc pas mal de choses. On vient d'ouvrir du coup le bureau à Paris. Je fais un peu les news dans l'autre sens. Mais ouais. Et puis on devrait faire quelques événements à Londres et à Paris bientôt et on sera content de voir beaucoup de gens du secteur et amis du secteur à ces événements-là.
Super. Et une dernière question. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer un projet dans le Web 3?
Je dirais deux choses. La première, c'est que c'est un secteur extrêmement riche et assez diversifié et assez ouvert. Donc, faut pas hésiter à se lancer et à parler à des gens et à apprendre et à échanger. Je trouve que les gens ont quand même une certaine ouverture et sont prêts à aider. Le deuxième point que je dirais, c'est ne réinventez pas la roue. Il y a aujourd'hui énormément, énormément d'outils et de services et de produits que vous pouvez utiliser pour vous aider à déployer le produit que vous souhaitez lancer, quel qu'il soit. Donc voilà, perdez pas de temps à réinventer la roue, réutilisez au maximum et focus sur la valeur ajoutée en plus, le core de votre produit et ce qui en général sera quelque chose que personne n'a encore créé, je dirais.
Ouais, utiliser des API, des librairies open source pour créer quelque chose de nouveau.
Absolument. Ouais, okay. Ouais. Ça, il y a quelques années, il y en avait assez peu. Aujourd'hui, il y en a plein.
Super. Merci beaucoup, Baptiste. C'était vraiment un plaisir.
Ouais, grand plaisir. Merci beaucoup, Gary, pour l'invitation.
Et voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que le Web 3 a désormais encore moins de secrets pour vous grâce à notre invité du jour. Bien entendu, vous pouvez partager cet épisode avec votre entourage, connaisseur ou non du Web 3. D'ailleurs, si vous avez des recommandations d'invités pour ce podcast, vous pouvez me contacter en tapant Gary Peneza sur LinkedIn. Je vous dis à très vite dans les coulisses du Web 3.